Alors, juste une petite précision, donc effectivement, moi je travaille à Nature Paris, qui est l'agence régionale pour la nature et la biodiversité, où je suis chargé de mission agriculture urbaine. Mais par ailleurs, le mouvement de la transition, je le pratique et je le connais un petit peu, puisque je participe depuis une dizaine d'années à peu près, enfin peut-être un peu moins à Paris, même si j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps. Mais en tous les cas, donc j'ai participé à ce mouvement en créant notamment un collectif dans le 18e qui s'appelait Quartier en Transition. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit peu le lien avec ce que je fais à la fois à Nature Paris au niveau de l'agriculture urbaine et ce que je peux développer en tant que militant dans ce mouvement. Alors, moi j'ai voulu effectivement, après qu'on en ait discuté ensemble, me projeter un petit peu sur l'aspect plus politique de la transition et comprendre, ou en tous les cas tenter d'orienter un petit peu des pistes sur ce que ce mouvement pourrait, disons, provoquer au sein des appareils politiques, ou plutôt ce qu'il ne pourrait pas éventuellement provoquer si on considère qu'en fait, il n'a peut-être pas du tout intérêt forcément à devenir un projet politique lui-même. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé la communication « Le mouvement des villes en transition doit-il construire son propre projet politique ou laisser la politique partidaire, plutôt la politique partisane, le récupérer ?» Donc cette notion de transition, c'est une notion qui est quand même passée dans le langage courant maintenant depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Enfin, c'est toujours difficile de dater comme ça des choses, mais on en entend quand même parler globalement beaucoup depuis une dizaine d'années, et à peu près tous les acteurs de la société s'en sont emparés. Et parmi ces acteurs, il y a bien entendu deux acteurs majeurs, je dirais. Donc la politique en elle-même, on parle beaucoup de la transition écologique, de la transition énergétique, et notamment les programmes politiques. Et puis, il y a un autre acteur aussi qui en parle beaucoup, c'est l'acteur économique, c'est les industriels. La transition, vous voyez, hein, quand vous regardez les publicités à la télévision, si jamais vous zappez pas à ce moment-là, vous voyez quand même pas mal de pubs qui portent justement sur la transition écologique, à grand renfort de slogans divers et variés, où on vous promet en fin de compte que l'être humain a atteint l'âge de raison et qu'il devrait bientôt pouvoir vivre en harmonie avec la nature. Donc ces deux grands acteurs politiques et économiques ont véritablement appréhendé la transition d'une manière très basique en fin de compte, sur le mode on acte la fin d'une époque et puis on en appelle à la venue d'une autre, avec tout ce que ça recouvre derrière. Donc je dirais moi que si on en croit un peu c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit à travers ces acteurs notamment, on pourrait croire qu'on est arrivé en fin de compte à la maturité, que c'est pas un mirage cette transition, qu'on est bel et bien, qu'on a bel et bien engagé la transition. Je dis bien on pourrait croire, parce que évidemment quand je dis ça, j'émets quelques doutes. Et on pourrait surtout penser que le changement de paradigme, dont la plupart de ces acteurs, auquel la plupart de ces acteurs se réfèrent, le changement de paradigme, je vais y arriver, est en marche. Sans jeu de mots, avec un autre. Autre chose. Donc, le changement de paradigme, pardon, est en marche pour donc tourner le dos à un modèle de développement aux conséquences, pardon, catastrophiques sur les écosystèmes et les êtres vivants. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, le mouvement de la transition, face à cette communion d'idées qui semble émerger, face à ce bel unanimisme qui semble également plus ou moins émerger, on peut se demander quelle est la place du mouvement de la transition au sein donc de cette communion d'idées. C'est un mouvement dont je suppose qu'avec Luc Semal ce matin, vous avez pas mal pu comprendre un petit peu d'où il venait. Enfin, en même temps, vous savez sans doute d'où il vient. Je n'étais pas à revenir là-dessus, mais c'est effectivement un mouvement qui a essaimé hein, depuis une bonne dizaine d'années, depuis qu'il est né à Totnes en 2006. Il a essaimé aux quatre coins du monde. Et il est régi selon un double principe hein, face à la crise écologique. L'idée, c'est la prise de conscience globale en suscitant le passage à l'action locale. Enfin, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais également sur autre chose qui constitue sa force à ce mouvement, en tous les cas, on le répète assez, qui est l'inclusion et la bienveillance qui permet quelque part d'éviter, enfin pas quelque part, qui permet complètement même, selon le mouvement de la transition, d'éviter tout clivage idéologique, culturel ou social. C'est quand même une base de ce mouvement, cet aspect clivage, clivant, parce que très précisément, on est dans un mouvement inclusif, on cherche le moins possible à créer ces clivages artificiels, ou pas artificiels d'ailleurs, ces clivages souvent bien réels. Alors, cette approche-là, elle explique pour beaucoup, de mon point de vue, l'engouement autour de ce mouvement, parce qu'effectivement, bah, c'est toujours quand même un peu plus simple quand vous n'avez pas trop d'aspérité, et notamment donc, le clivage idéologique, d'adhérer à un mouvement. En tous les cas, c'est peut-être un peu plus facile. je ne sais pas, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement une conscience politique ou une envie politique développée, de s'inscrire dans ce mouvement. Alors, je pense que par ailleurs, s'il a suscité autant d'engouement depuis une dizaine d'années, c'est précisément parce qu'il y a une autre crise, donc celle qu'on connaît bien, la crise écologique et la crise économique, et une autre crise, c'est la crise politique. On le voit bien actuellement dans la séquence qui nous intéresse en ce moment, dans la séquence présidentielle, on voit bien qu'il y a une grosse crise politique qui n'est pas née effectivement en 2016-2017, qu'elle remonte à bien plus longtemps, et que cette défiance vis-à-vis du personnel politique, des représentants politiques, des partis politiques, elle existe donc depuis maintenant une bonne dizaine d'années justement, et elle est plus ou moins, concomitante peut-être également, à la naissance du mouvement des villes en transition. Et je pense qu'elle a aidé, quelque part, cette crise politique, précisément, au décollage de ce mouvement. En tous les cas, elle a aidé à son ancrage dans la société. Et d'un autre côté, et bien évidemment, il y a à la fois, je dirais, deux mouvements un peu inverses dans cette crise politique. D'un côté, un mouvement qui aurait tendance, je dirais, à regarder d'un peu trop près, à mon goût, en tous les cas, du côté d'une forme de populisme électoral, et puis encore une fois, de l'autre, un mouvement un peu inverse, qui serait plutôt de se replier, entre guillemets, sur une forme un peu autogestionnaire, sur une forme d'autonomie par rapport au personnel politique. Et c'est évidemment dans cette catégorie-là que se rangerait le mouvement des villes en transition, en tous les cas, celles et ceux qui le composent. Donc l'idée étant évidemment, pour cette partie de la population, de s'engager sans attendre de décisions politiques, de s'engager dans des actions locales, dans des actions concrètes, on parle beaucoup également d'utopie concrète dans ce mouvement, donc dans des actions concrètes et qui touchent à notre vie quotidienne. Je sais pas, je fais un peu si j'ai le micro là. Bon, ça... Oui, je parle peut-être trop bref. Hein. Ok. Je vais éviter de cracher dans le micro, ça va être plus agréable pour vous. Vous m'entendez là du coup? Ok. Donc, alors l'idée, et ça a été redit à plusieurs reprises, enfin en tout cas j'étais pas là ce matin, mais j'imagine que ça a été dit, puis ça a été un petit peu évoqué dans l'intervention précédente également, l'idée du mouvement des villes en transition par rapport à la politique, ce n'est pas nécessairement, d'ailleurs ce n'est surtout pas, c'est surtout pas de créer des rapports de force, je vais y arriver, des rapports de force avec les autorités politiques locales. Comme je vous l'ai dit précédemment, on est bien dans un mouvement qui refuse le clivage, et donc, a fortiori, on va refuser ce rapport de force avec les autorités politiques locales. On va développer des actions locales qui ne sont pas évidemment nécessairement dues et du fait des autorités locales, puisqu'on prend une part d'autonomie, une part d'autogestion, mais dans le même temps, on n'est pas dans l'adversité, et en tous les cas, on ne se situe pas dans un rapport de force. Bien au contraire, je dirais, je pense que l'objectif, à un moment donné, c'est bien de créer des ponts avec ces autorités locales et de pouvoir, en fin de compte, mettre en place un projet commun à condition que ces autorités locales, je dirais, soient transition compatibles. En vérité, c'est pas si dur que ça d'être transition compatible. Mais c'est là justement que la suite de mon intervention, enfin c'est là que j'essaye de poser un certain nombre de questions, parce que vu que c'est pas si dur que ça, ça peut présenter un certain nombre de sujets d'inquiétude. Alors, enfin, c'est toujours de mon point de vue, évidemment. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que l'adhésion à ce mouvement, s'il est dû à cette crise politique, qui est une forme de rejet de la politique politicienne, c'est pas non plus... Je pense que les gens n'adhèrent pas sur le mode du syndrome du tous pourri. C'est important de préciser ça. On n'est pas quand même dans quelque chose justement de, je dirais, sur lequel surfent un certain nombre de presque de populistes aujourd'hui. On est bien sur quelque chose, sur une forme de ras-le-bol un petit peu d'une politique qui laisse place à beaucoup d'inertie, ou en tous les cas, on a le sentiment qu'elle n'est pas du tout proche de nos préoccupations quotidiennes, mais on n'est pas non plus dans une volonté de jeter la politique avec l'eau du bain. C'est à mon sens important de le préciser à ce niveau de la discussion. Alors, ça n'occulte pas moins le fait, effectivement, et ça a été reprécisé, je crois notamment, enfin, je dis ça, j'y étais pas, donc c'est un peu stupide, mais enfin, si j'ai bien compris, ça a été précisé ce matin, notamment par Luc, il y a effectivement dans ce mouvement une forme avérée, avouée, volontaire, d'apolitisme. C'est un mouvement qui très clairement se revendique comme apolitique. Pour beaucoup de transitionneurs, on ne se revendique pas dans ce mouvement, quand on y est en tous les cas, de l'apolitisme, quelque part, on remet en cause l'un des principes fondamentaux de ce mouvement. Donc c'est très important à avoir à l'esprit cet apolitisme constitue une forme de... C'est pas une forme d'idéologie, mais en tous les cas, c'est une boussole pour le fonctionnement de ce mouvement. Mais pourtant, si on y regarde de plus près, et vous le savez aussi, enfin si, je pense que si vous êtes ici, si vous vous intéressez à ce mouvement, mais on voit bien que le projet qui est porté par le mouvement des vies en transition, il est pourtant éminemment politique. Enfin, c'est un projet, quand vous lisez le manuel de Rob Hopkins, ou quand vous lisez tout un tas d'écrits autour de la transition, on comprend bien que c'est un vrai projet de société, et que ce projet de société, il est de fait politique, ne serait-ce que parce que, c'est une prise de position personnelle, hein, mais le cœur idéologique, en fin de compte, de ce projet, il est incontestablement à chercher du côté de l'écologie. Et la grille d'analyse de celles et ceux qui sont dans ce mouvement est une grille d'analyse qui est très orientée vers l'écologie et quelque part, d'une certaine façon, vers l'écologie politique. Et donc, à partir de là, moi je crois qu'on peut qualifier le projet de la transition de projet politique, même si, encore une fois, la plupart des transitionneurs n'emploieront pas ce mot-là et auront même une certaine répugnance à l'employer. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'un projet politique au sens partisan du terme, hein, puisqu'encore une fois, on est dans quelque chose d'apolitique. Il ne s'agit pas d'une volonté avec ce projet de conquête du pouvoir. Vous n'aurez aucun groupe de transitionneurs qui vous diront qu'ils s'inscrivent dans une logique électorale visant à conquérir le pouvoir. Quoique, il y a quand même des exemples, alors, non pas des groupes en eux-mêmes qui vont se constituer en groupes politiques, mais qui vont par contre, effectivement, en trouvant des élus qui sont transition compatibles, ils vont peut-être justement chercher à créer une force politique et citoyenne qui leur permettront d'accéder à des responsabilités. Ça, c'est effectivement possible. Mais en tant que tel, un groupe de transitionneurs n'a aucune vocation, alors ça peut changer, hein, mais n'a aucune vocation à se transformer en groupe politique ou en appareil politique. Alors, quelque part, est-ce que ça signifie que le mouvement des villes en transition fait de la politique sans le savoir, un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense tout de même que tout le monde est bien conscient qu'il y a une part de politique dans la transition. Rob Hopkins lui-même dit la chose suivante dans une interview, hein, la transition est profondément politique, mais elle n'est pas explicitement politique. Alors c'est quand même un peu alambiqué comme phrase, hein, vous en conviendrez. On est quand même vraiment là, je pense, dans quelque chose qui est de l'ordre du déni, voire parfois de l'ambiguïté dans la transition. Et je crois que ça nécessite un travail, à mon avis, enfin en tous les cas, à un moment donné, mais j'y reviendrai après, je pense qu'il est bien de nommer aussi les choses, et il n'y a pas nécessairement de honte, hein, la politique, c'est pas forcément la conquête du pouvoir, c'est bien d'autres choses. Alors, le mouvement de la transition, il prône l'empowerment, chacun participe à la vie de la cité, on est bien aussi dans la racine du mot politique, hein, dans la fameuse police, et donc là aussi, ça rejoint quand même pas mal, justement, cette vision qui consisterait à dire cette notion qui consisterait à dire que la transition est bien un projet politique. Alors, on l'a vu, encore une fois, les transitionneurs, ils sont viscéralement attachés à la politisme, donc il ne s'agit pas de les convaincre à tout prix qu'ils font de la politique, surtout pas. Mais, du coup, se pose la question de savoir, est-ce que la transition devrait se muer en projet politique? Je suis désolé, je crois que je vous écorche les oreilles. Quand il arrive, j'y arriverai pas avant la fin.
On n'est pas obligé d'utiliser le micro pour le faire sans.
Sauf que j'ai une voix qui ne porte pas et qui va se... pense s'arrêter dans peu de
temps.
On peut essayer. On peut essayer.
Si j'ai plus de voix, ça sera pas de foot. Ça sera pas sympa. Alors on essaye. Donc, au fond, ça va. Ok. Donc, pourquoi, en fait, on peut se demander pourquoi la transition ne devrait pas se muer, justement, en projet politique, ou plutôt, est-ce qu'elle devrait se muer en projet politique, puisque l'objectif, encore une fois, n'est pas de se transformer ni en parti, ni en conquête de pouvoir, mais bien d'amener à s'interroger d'amener plutôt les politiques à s'interroger sur ce mouvement. On peut donc se dire qu'après tout, il pourrait très clairement essayer, en tous les cas, d'avoir un projet charpenté politiquement parlant. Je dis bien essayer parce que, toujours pour les mêmes raisons, hein, ce côté apolitisme très clairement revendiqué. Mais en creux, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que, puisque les appareils partidaires, comme on l'a vu tout à l'heure, où les appareils partisans ont fait de la transition un de leurs mantras quasiment dans leur programme. Hein, vous prenez un programme politique en tant que tel et la transition est citée quand même assez régulièrement. Donc, puisque ces appareils en ont fait un des axes majeurs de leur programme, après tout, on peut se contenter, bon, le mouvement de la transition pourrait se contenter de se dire, on a réussi, ou on est en train de réussir, ou on continue à réussir à polliniser la politique, et donc, on n'a pas besoin de faire plus, on a déjà réussi à influencer, à influer un certain nombre de nos élus, de nos dirigeants, les programmes politiques, etc. C'est vrai, après tout, ça pourrait justifier. Bon, de mon point de vue, vous l'aurez compris, ça reste en deçà de ce qu'on pourrait imaginer de plus grand, mais en tous les cas, c'est déjà une première approche. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une série d'autres interrogations qui surgissent, dont l'une n'est pas sans rappeler un débat qui est encore très, très prégnant actuellement autour du concept de développement durable. Donc le développement durable, je ne vais pas revenir dessus, il est arrivé toutes les années 70-80, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde politique et économique s'en est emparé, un peu comme il s'est donc emparé depuis une dizaine d'années de la transition, en tous les cas un peu comme il en parle de la transition, et il s'en est emparé. Et qu'est-ce qu'il est advenu du concept de développement durable? Pas une chose formidable, enfin à mon sens en tous les cas. C'est devenu davantage une formule marketing, en tous les cas dans la bouche d'un certain nombre d'acteurs, pas dans tous, il ne s'agit pas non plus là aussi de jeter tout le monde dans le même bain, mais en tous les cas, une fois que cette formule, elle a été, avalée, malaxée, digérée même par le système capitaliste, elle a quand même perdu pas mal de sa crédibilité, et du coup, aujourd'hui, quand vous parlez de développement durable, enfin, je sais pas vous, mais moi, en tous les cas, j'ai du mal à imaginer un quelconque changement de paradigme. Voilà, ça m'inspire pas grand-chose, en fait. Alors, pour que ça m'inspire quelque chose, il faut que je revienne en arrière au tout début du développement durable, quand effectivement elle n'avait pas été encore totalement, dénaturée, cette notion. Alors, moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est advenu, en fin de compte, du développement durable, ça nous éclaire déjà, sur la capacité d'un modèle dominant, qui est justement le capitalisme, à changer la nature d'un concept. Et ça, c'est quand même assez notoire. La plasticité de ce système, il est vraiment en capacité, en fin de compte, de s'adapter à peu près tout et de détourner tous les concepts de façon quasiment illimitée. D'autant plus quand les appareils politiques eux-mêmes ne sont pas capables de remettre en cause le système capitaliste d'une certaine façon, de remettre en cause ou de s'approprier d'une façon qui ne consisterait pas justement à dénaturer le concept de développement durable. On se retrouve à un moment donné avec, encore une fois, des formes politiques qui sont incapables, d'un côté, de contrer ce modèle dominant, et qui, de l'autre, sont incapables de porter jusqu'au bout un concept qui, pourtant, dans son ADN, je dirais, à la possibilité, enfin à des germes qui sont capables de nous faire changer de paradigme. Et pour moi, la transition, justement, ce parallèle que j'essaye de faire avec le développement durable, la transition risque
peut-être de connaître un peu le même sort. En tous les cas, ce n'est pas une fiction d'imaginer que dans une dizaine d'années, quand on parlera de transition, on écoutera un petit peu, on entendra un petit peu la même musique que quand on entend le développement durable. Il y a en tous les cas une réelle possibilité qu'elle passe, qu'elle se transforme un peu en greenwashing ou qu'elle soit ravalée un peu au rang de tarte à la crème, cette transition. Alors, pour le mouvement des villes en transition, justement, s'il ne pourra pas empêcher la récupération de ce qu'il peut porter, et on l'a vu, ce n'est pas nécessairement son objectif, hein, l'objectif c'est aussi de polliniser, mais si du moins il ne pourra pas empêcher une récupération qui consistera à transformer ce qu'il porte, précisément en slogan publicitaire, ou en marketing politique, il a la possibilité, je pense, justement, de construire quelque chose qui lui permette de ne plus, ou en tous les cas, de ne pas risquer de voir son projet dévoyé. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes, ça devrait suffire. Alors, évidemment, pour que son projet ne soit pas dévoyé, dénaturé, etc., on pourrait se dire qu'il faut vraiment, vraiment, cette fois-ci, passer au stade supérieur et le politiser. Alors, évidemment, quand je dis ça comme ça, si je dis ça comme ça à un groupe de transitionneurs, ça ne va pas plaire. En tous les cas, pourquoi ? Parce que la politique, tout de suite, est effectivement vue comme quelque chose de clivant, et donc ça ne passera pas. Mais par contre, on peut imaginer qu'on le politise en affirmant des points qui seront non négociables, en appuyant sur des fondamentaux de ce projet qui sont incontournables, pour constituer ce que j'appellerais, moi, une forme de bouclier politique. Alors, ce bouclier politique, je vais vous expliquer un petit peu après ce que j'entends par là, mais c'est plus des pistes et des sujets de discussion que d'une affirmation de quelque chose de bien charpenté de ma part. Hein. Mais ce bouclier politique, de mon point de vue, il a pour objectif d'éviter deux écueils majeurs. Donc le premier, vous l'avez compris, hein, c'est d'éviter de se faire récupérer dans ce que j'ai englobé dans le marketing politique et économique. Et de l'autre, il a aussi pour objectif d'éviter toute tentative de récupération ou d'infiltration, je dirais, par des groupes à l'idéologie douteuse, nauséabonde, de mon point de vue. Et en l'occurrence, on ne peut ignorer, parce que ça s'est produit en Bourgogne, notamment du côté de Dijon, vous avez eu certains groupes transitionneurs qui ont été infiltrés. Alors je ne sais pas si ce sont de bons mots en tous les cas, mais où les idées du Front National ont été clairement... ont clairement été diffusés à travers ce canal, et notamment pourquoi ? Parce que le Front National a mène un combat autour de la relocalisation, et la relocalisation fait partie des préceptes, en fin de compte, de la transition. Très clairement, le local, produire local, consommer local, l'énergie locale, etc., c'est vraiment une des boussoles de la transition. Il se trouve que c'est aussi un programme, effectivement, en partie du Front National, entre autres, mais pas que du Front National, d'ailleurs. Mais en tous les cas, je pense que ce bouclier politique dont je vais vous détailler deux, trois idées juste après, doit aussi pouvoir permettre de se mettre à l'abri, pour le mouvement de la transition, de ce genre de tentative de récupération de la part de certains groupes politiques. Alors, pour moi... Il y a trois idées dans cette idée de bouclier politique. Je crois qu'il faut d'abord que la transition, que le mouvement des villes en transition, densifie et conserve sa capacité transformatrice et émancipatrice. Il faut vraiment réaffirmer donc ses fondamentaux, et notamment trois fondamentaux pour moi, que sont l'humanisme, le partage, ça en fait quatre en fait, l'humanisme, le partage, l'ouverture et l'attention portée aux autres. Ça, je crois que vraiment, c'est assez fondamental de garder comme j'emploie beaucoup ce mot, je suis désolé, comme boussole, ces fondamentaux. Ensuite, l'idée, c'est bien aussi de pouvoir conserver un peu sa matrice originelle, qui est, le mouvement de la vie en transition, c'est quand même un catalyseur de transmission des savoirs et savoir-faire. Et cette capacité, justement, je pense qu'il faut qu'il la conserve, qu'il la développe, qu'il aille encore plus loin dans cette notion de transmission, parce que c'est quelque chose qui, j'aurais pu dire que c'était de l'ordre de l'éducation. Moi, j'aime assez moyennement ce mot. Enfin, ça on pourra en discuter, mais bon. Mais donc, du coup, voilà, je crois que la transmission, elle est une des bases, une des clés de ce mouvement. Et enfin, je dirais, pour ce bouclier, la troisième idée, ça serait de construire une pensée qui soit, je dirais, une pensée transdisciplinaire. En l'occurrence, le mouvement de la transition, il a contribué à ouvrir un espace extrêmement important. Et cet espace, autour de l'implication donc des habitants dans la vie de la cité, et cet espace, je pense qu'il gagnerait à l'occuper d'une manière totale. En tous les cas, d'une manière beaucoup plus importante qu'il ne l'occupe aujourd'hui. Alors, je m'explique. On l'a vu, hein, donc, cet activisme que produit le mouvement des villes en transition, il n'est pas dénué de toute réflexion politique. Sinon, si j'ai dit qu'il en était dénué, je vais tomber tout ce que j'ai dit juste avant. Donc, il n'en est pas dénué, mais en même temps, de mon point de vue également, et après une dizaine d'années à graviter un peu dans ce mouvement, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une dimension qui était particulièrement absente, c'était la dimension sociale. Dans le cheminement et dans la pensée des villes en transition. Et de mon point de vue, cette dimension sociale, cette absence un petit peu de réflexion, où en tous les cas, on tourne un peu autour du pot, on la nomme pas vraiment, pour moi, c'est une faiblesse. Alors, certes, évidemment, quand vous parlez d'alimentation accessible à tous, quand vous parlez d'énergie accessible à tous, d'agriculture accessible à tous, quand vous relocalisez tout ça, etc., il y a une dimension tout de même sociale, forcément. Mais pour autant, il y a une notion dans ce concept social qui n'existe pas, ou en tous les cas qui n'est pas nommée, qui mériterait d'être densifiée et qui permettrait justement de construire ce bouclier, c'est la notion d'égalité. Et je trouve que cette notion, elle est un peu l'angle mort de la transition. En gros, c'est un peu comme si... À partir du moment où vous parlez d'égalité, c'est un peu comme si la peur du conflit, qui est sous-jacente dans la transition, enfin il ne faut pas qu'il y ait de conflit, bah, c'est un peu comme si la peur du conflit, elle agissait comme un repoussoir pour commencer à vouloir parler de cette notion d'égalité. Parce que forcément, quand vous allez commencer à parler d'égalité, vous allez parler donc et vous allez vous intéresser à l'inégalité de classe, à l'inégalité territoriale, à l'inégalité pardon, ethnique, à l'inégalité de genre. Tous ces aspects-là, ils ne sont pas traités. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas abordé dans la transition. Et je pense que même si c'est un mouvement qui, effectivement, est davantage un mouvement qui est dans la pratique, il n'empêche que, quand vous lisez encore une fois ce que peut écrire Rob Hopkins dans son manuel et dans tous les autres écrits qu'il a pu produire, il y a quand même une pensée intellectuelle. Mais cette pensée intellectuelle, encore une fois, je trouve que tout un pan... des aspects sociaux et donc de tout ce qui est lié à l'égalité n'est pas du tout, ou très peu en tous les cas, se matérialise très très peu. Alors, encore une fois, c'est assez difficile dans le mouvement de transition de parler de ça, parce qu'on va du coup parler de lutte pour, plutôt contre les inégalités. Et évidemment, le mot lutte, il est pas facile à manier dans la transition. Moi, juste une toute petite anecdote, dans les 5 dernières minutes qui doivent me rester, on a monté, il y a ici des personnes qui étaient dans ce projet, on a monté le festival des utopies concrètes il y a 4-5 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et au lancement du festival des utopies concrètes, il y a eu une discussion assez importante entre nous sur le fait, est-ce qu'on devait parler uniquement des alternatives, donc en positif, ou est-ce qu'on devait aussi parler des luttes. Et donc je me souviens très bien que ça a été donc une discussion assez longue où finalement, à l'ouverture du Festival des Utopies Concrètes, premier du nom, on a tranché, donc on a parlé à la fois des alternatives et des luttes. Mais voilà, il y avait eu quand même une certaine tension, et aujourd'hui encore, je suis à peu près certain qu'elle existe toujours, pour toutes les raisons que je vous ai dites juste avant. Donc, voilà, si on introduit cette notion, ça va sans doute poser quelques soucis, et pourtant, pour moi, à partir du moment où la transition se pose quand même comme un acteur important de la justice environnementale, pour qu'il marche sur ses deux jambes, il me semble qu'il faut que l'autre jambe, ça soit la justice sociale. pense qu'on ne peut pas parler de justice environnementale sans parler de justice sociale. Et de ce point de vue, la transition, je trouve, n'est pas encore très, très claire sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant quand même de noter aussi, c'est que dans la transition, dans les groupes de transitionneurs, alors moi je me fie à ce que j'ai vu, et je ne prétends pas avoir vu tout ce qui se passe aux quatre coins du monde, et il y a peut-être justement ici dans la salle des gens qui pourront me démentir, hein. Mais je crois qu'il y a à peu près 2000 initiatives recensées à travers le monde aujourd'hui, ça fait beaucoup évidemment, mais on a un peu la sensation quand même quand vous allez voir ces initiatives, quand vous allez rencontrer ces groupes, qu'on a affaire globalement à une catégorie sociale assez homogène, CSP, CSP+, hein, et que cette catégorie est surreprésentée dans les groupes. Vous avez quand même assez peu, je trouve, moi, d'autres catégories sociales représentées, et surtout la transition, elle a beaucoup de mal, pardon, à s'implanter ou à aller dans les quartiers ouvriers ou dans les quartiers, je dirais, à forte densité de population issue d'immigration. Généralement, on a quand même des groupes de transition qui se développent dans des quartiers assez bien, homogènes avec les catégories sociales précitées. Donc, à mon avis, si vraiment on commence avec le mouvement des villes en transition à bien intégrer la question sociale, je ne dis pas qu'on arrivera à gommer d'un seul coup ce que je viens de décrire là, mais par contre, on permettra peut-être d'avoir un saut qualitatif. Et je crois que ça, c'est quand même assez, assez intéressant. En tous les cas, de mon point de vue, encore une fois, la transition, elle ne pourra pas faire l'impasse sur ça, parce qu'elle risque sinon de produire une justice environnementale à plusieurs vitesses. Et ça, ça pose quand même un problème particulier. Par ailleurs, et pour terminer, il y a quelque chose, un phénomène actuellement qui se déroule sous nos yeux, hein, et que le mouvement des villes en transition ne peut ignorer. C'est cette crise internationale que l'on vit hein, depuis maintenant 2-3 ans, cette crise internationale qui est le déplacement massif des populations, donc là sous l'effet des guerres pour ce qui est de la Syrie, pour ce qui est de l'Irak, etc. Et puis ça a déjà commencé, mais ça ne va faire que s'amplifier évidemment sous l'effet des crises climatiques. Or, l'arrivée de ces populations, l'arrivée massive de ces populations en Europe, on le voit bien, enfin. On le voit quotidiennement, hein. Il y a une réelle incapacité actuelle des politiques publiques à prendre le problème à bras le corps, je dirais même parfois à le comprendre, parce que vraiment j'ai l'impression que qu'il y a une forme d'incompréhension, on ne sait pas par quel bout le prendre, alors ça peut aussi relever du déni, hein, mais en tous les cas, il y a vraiment là quelque chose qui est assez terrible à constater. Et c'est une mutation pourtant urbaine qui s'annonce. Cet afflux massif de population, non seulement elle ne va pas s'arrêter demain, elle va continuer, mais en plus, elle ne va pas repartir dans l'autre sens. Et si on n'en prend pas conscience, je pense que nos villes, nos métropoles, elles vont à un moment donné, elles vont droit à l'effondrement, pour reprendre un mot qui est fréquemment cité dans le mouvement des villes en transition. Et je crois que le mouvement des villes en transition, il a précisément un rôle à jouer à ce niveau-là. Je pense qu'il pourrait même se positionner très clairement en acteur majeur de la réinvention d'une forme urbaine qui pourrait, en tous les cas, d'une certaine façon, pouvoir prétendre à commencer à imaginer des villes qui se préparent et qui surtout sont en capacité d'accueillir durablement ces populations. Et je crois vraiment que ce mouvement, il doit pouvoir même, pour aller au-delà, il doit pouvoir s'intégrer dans un vaste mouvement social urbain. C'est de mon point de vue ce qui le rendrait encore plus opérationnel, encore plus intéressant, parce que la ville va changer, va être complètement transformée. Enfin, vous le voyez, enfin, à Paris, donc moi qui ai habité très longtemps dans le 18e arrondissement, on voit bien ce que ça signifie. Encore une fois, et on voit bien aussi ce que peut apporter d'une certaine façon le mouvement des villes en transition, et là j'en ai fini à ce stade-là, notamment à travers, c'est pris par le petit bout de la lorgnette peut-être, mais ça reste quelque chose d'intéressant comme exemple, à travers l'agriculture urbaine, on en parlait tout à l'heure, on le sait, hein, l'agriculture urbaine c'est un des piliers de la transition, quand vous voulez passer à l'action, ça fait partie de la panoplie vraiment très opérationnelle, et bien l'agriculture urbaine est un levier. Je ne dis pas que c'est ça qui va résoudre les problèmes migratoires, il ne faut surtout pas me faire dire ce que je n'ai pas à dire, mais est un levier possible, parmi tout un tas d'autres, de justement la possibilité de rendre nos villes plus accueillante, de rendre nos villes, je dirais, plus comestibles. Et cette notion, elle est importante. Bref, peut-être de retrouver la notion de ville-refuge, dont on a beaucoup entendu parler par ailleurs. Et je crois que la transition avec l'agriculture urbaine, encore une fois, comme exemple très... très concret, peut jouer un rôle là-dedans. Ah, juste un dernier mot, un dernier exemple sur l'agriculture urbaine et ce lien avec les mouvements massifs de population. Vous avez dans le 19e arrondissement, par exemple, une association qui s'appelle Verger Urbain, qui travaille dans un centre d'hébergement qui se trouve du côté de Jean Carré, place des Fêtes. Ils ont mis en place dans ce centre d'hébergement pour populations migrantes des carrés d'agriculture urbaine qui permettent justement à ces populations de retrouver une forme d'apaisement et en tous les cas non pas une forme de réinsertion dans la société parce que le mot est trop fort et en plus ils restent dans ce centre en général une quinzaine de jours ou enfin ceci dit reste beaucoup plus malheureusement pour plein de raisons mais du coup voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe là-bas, très clairement. Quand ils ont mis ce potager en place au cœur du centre, ça a été assez long à ce que, pour que les populations présentes comprennent un petit peu de quoi il en retournait. Et aujourd'hui, vous avez vraiment des groupes, alors c'est des hommes qui sont en Jean Carré, vous avez des groupes d'hommes qui passent la majeure partie de leur temps sur ce potager. Et on voit très clairement, on le voit visuellement, mais on le voit aussi quand on discute avec eux, que ça apporte quelque chose d'important dans ce parcours totalement chaotique et déchiré qu'ils ont eu. Donc je crois que l'agriculture urbaine, et donc par-delà le mouvement des villes en transition, peut jouer un rôle important pour la ville.